temps de notre série qui est alors que les rendez-vous de l'histoire de Blois où nous nous trouverons en direct vendredi ont pour thème partir, s'intéresse au voyage politique. Deuxième temps de notre thème sur les voyages politiques, après avoir évoqué hier les voyages des intellectuels de l'entre-deux-guerres en Italie fasciste ou en Russie soviétique, le documentaire de ce mardi signé Séverine Yatar et Véronique Samouilov nous raconte le long voyage en 1964, un long voyage de plus de 3 semaines du général de Gaulle en Amérique latine. Il cherchait dans ce périple à mettre en place une politique extérieure singulière capable de tenir tête à la fois aux États-Unis et à l'URSS. Ce documentaire est riche de très belles archives sonores, écoutez-les car beaucoup d'entre elles sont des archives qui n'ont jamais été diffusées, ce sont des rushs comme on dit dans le métier, et elles témoignent de l'énorme couverture médiatique de ce voyage par les médias publics français. Jusqu'à 10h, dans la fabrique de l'histoire, 1964, le périple latino-américain du Libertador français avec les analyses de Mathieu Trouvé, Isabelle Vagnoux et Maurice Weiss.
Caracas, Bogota, Quito, Lima, Cochabamba, Arica, puis Valparaiso et Santiago.
Venezuela, ensuite Colombie, Équateur, Lima, Pérou, après la Bolivie, le Chili, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay, et puis pour finir le Brésil dans toutes les capitales, y compris dans la nouvelle capitale, Brasilia. C'est dans ce sens-là voilà, qu'il fait le parcours, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
1964, le périple latino-américain du Libertador français.
Un voyage extraordinaire au sens même du terme, 20 000 km là-bas. Si l'on ajoute les deux traversées atlantiques, cela fait plus que le tour du monde. Un total de 10 pays visités, presque 10 capitales, 49 discours en français, 6 allocutions en espagnol.
C'est spectaculaire d'abord parce que 3 semaines, 32 000 kilomètres, l'avion, le bateau, etc., c'est pas anodin. Rarement aujourd'hui les chefs d'État ne s'aventurent en dehors de leurs frontières aussi longtemps. Et puis c'est vrai que, alors, pour ce qui est de la médiatisation, les médias, en rendant compte de ce voyage, pratiquement, j'allais dire, heure après heure, ont contribué à en faire une sorte de voyage légendaire en décrivant, avec mon nombreuses anecdotes, tout le délire de l'accueil, l'enthousiasme des populations et avec une allure un peu de kermesse parfois. Parce que c'est vrai que De Gaulle, il n'y a pas grand-chose à proposer concrètement. Ses discours sont assez généralistes. Du coup, on souligne beaucoup dans la presse l'ambiance très exubérante des latino-américains et puis le contraste qu'il y a évidemment entre le général De Gaulle qui est très grand en plus de ça et puis les foules latino-américaines quand il prend des bains de foule qui sont au contraire assez petits. Hein. Les Indiens à qui il tend la main, il dépasse de plusieurs têtes, donc tout ça est très visuel, très audiovisuel en plus.
L'Amérique latine est un continent avec lequel la France entretient des liens forts, depuis longtemps. Elle y jouit d'un prestige et d'un capital de sympathie dû à son influence intellectuelle qui remonte à l'âge des Lumières et au XIXe siècle. Les émancipations des colonies espagnoles sont accomplies pour la plupart au nom des idéaux de la Révolution française. Durant ce grand voyage, qui débute le 21 septembre pour s'achever le 16 octobre 1964, De Gaulle porte sa voix et la voix de la France. Il énonce les grands thèmes de la politique latino-américaine de la France pour les années à venir. Rejet des hégémonies, latinité, troisième voie, indépendance, liberté et droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, coopération. Ce projet qui ne manque pas de grandeur ni d'ambition s'explique aussi largement par des changements importants au sein du contexte international. Maurice Weiss, spécialiste d'histoire internationale, nous en expose les points importants.
Le contexte est essentiel. Le contexte est essentiel parce que on se trouve dans une période de la post-décolonisation. Il y a eu l'Afrique noire, il y a eu l'Algérie en 1962. Et par conséquent, la France, n'a plus de problème avec les pays du tiers-monde qui lui reprochaient sa colonisation. Et par conséquent, une vaste entreprise s'ouvre au général de Gaulle et à la France. Et il le dit d'ailleurs lors de son discours de la conférence de presse du 31 janvier 1964, si je ne me trompe, où il explique que à partir de maintenant, la coopération devient le maître mot de la politique française. Et cette coopération, le général de Gaulle la voit étendue au monde entier, pas seulement aux pays qui étaient auparavant des pays sous tutelle française, mais réellement au monde entier. La preuve, c'est que c'est dès le début de 1964 qu'il établit des relations diplomatiques avec la Chine populaire et qu'au cours de l'année 1964, il va faire deux voyages en Amérique latine, l'un au début de l'année 1964 au Mexique, l'autre en septembre-octobre 1964 consacré à l'Amérique latine.
Le Mexique d'aujourd'hui, c'est le président López Mateos qui l'incarne ce matin du 16 mars, alors qu'il donne l'abrazo, c'est-à-dire l'accolade, au général de Gaulle.
Mexique, ORTF, mars 1964.
Du Palais National, du balcon d'où le président mexicain, chaque année, le jour de la fête nationale, évoque la lutte du pays pour son indépendance. Un chef d'État étranger va parler pour la première fois. Le président López Mateos le présente à la foule.
Mexicanos, el señor general Charles de Gaulle.
Il y a ce premier voyage au Mexique qui est une sorte de prélude après coup.
Mathieu Trouveau.
On peut dire comme ça, au voyage en Amérique du Sud. Et c'est là où il y a la fameuse petite phrase du général de Gaulle à la fin d'un discours. Il dit « Marchamos la mano en la mano ». La main dans la main, c'est cette petite phrase qui a été beaucoup reprise par la suite pour illustrer cette nouvelle politique de la France vis-à-vis de l'Amérique latine.
El pueblo mexicano, marchemos la mano en la mano y viva México.
La France entretenait des liens culturels assez forts avec le Mexique. Il y avait également eu des contacts dès la Seconde Guerre mondiale entre des communautés françaises sur place et la France libre, les représentants de la France libre. Jacques Soustelle qui a travaillé au Mexique. Donc il y avait des liens, je dirais, politiques, culturels, des affinités intellectuelles assez fortes. Il y a toujours eu un regard tourné du côté de la France, du côté du Mexique.
Visite une école où les petites filles ont appris à cette occasion de vieilles chansons françaises.
Le voyage au Mexique, c'était un voyage aussi qui était déjà très médiatisé à ce moment-là. Et puis surtout, on était un petit peu sur les plates-bandes des Américains aux portes des États-Unis. Et c'est pour ça que dès ce premier voyage de mars 64, on a l'impression qu'il y a une sorte de volonté de défier un petit peu les États-Unis en Amérique latine, sur leur propre terre.
Bravant les risques et les fatigues d'un long voyage, le général de Gaulle s'est donc embarqué pour ce continent sud-américain. Un voyage qui va durer 26 jours et le conduire dans 10 États.
Départ d'Orly, 20 septembre 1964.
L'expérience de la France et son assistance technique, c'est ce que le président de la République française va offrir à ces nations d'Amérique du Sud à l'heure où elles abordent une étape importante de leur développement économique.
Après s'être rendu au Mexique au printemps 1964, le général de Gaulle entame ce long périple en Amérique latine le 20 septembre suivant.
Alors ça a été un voyage qui a été soigneusement préparé par les services du Quai d'Orsay, par également ce que le général de Gaulle appelait sa maison, c'est-à-dire son cabinet et le secrétaire général de l'époque, Étienne Burin-Desrosiers. Ce qu'il faut savoir, c'est que
Mathieu Trouvé.
Tous les services ont préparé des dossiers par pays, mais en plus de ça, donc un soin tout particulier a été apporté aussi au discours que le général de Gaulle allait prononcer sur place. Par exemple, chaque ambassade envoyait à l'Élysée, au ministère, des citations, des noms de personnes incontournables, Et également, chaque discours du général de Gaulle a été traduit, non pas par un simple hispanophone, j'ai envie de dire, mais traduit par un vénézuélien pour le Venezuela, un bolivien pour la Bolivie, etc. Donc il y a eu un soin tout particulièrement pour les discours du général de Gaulle. Ensuite, sur l'aspect purement matériel, il a fallu évidemment préparer la caravelle présidentielle. Le chef d'état-major particulier du général de Gaulle, l'aide de camp, l'ont accompagné, son docteur personnel également. Il faut aussi rappeler qu'il y a eu aussi des voyages en bateau, puisqu'il effectue deux périples entre Arica et Valparaiso en bateau, et également entre Montevideo et Rio en bateau à bord du Colbert, qui a été spécialement affrété à cette occasion. Donc ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. 32 000 km en effet, plus de 20 jours, enfin tout ça est quelque chose qui est une grosse organisation. Et il part seul et avec sa femme, mais aussi avec le ministre des Affaires étrangères, mais uniquement, point final. Il n'y a pas une délégation d'autres ministres, il n'y a pas d'autres représentants, par exemple, des administrations, il n'y a pas de représentants du patronat, par exemple, pas de chef d'entreprise qui l'accompagne, pas d'intellectuel, pas d'homme de lettres, non. Il est quand même, c'est lui qui voyage, alors certes, il y a Couve de Murville, donc le ministre des Affaires étrangères, mais qui était là parce que c'était, j'ai envie de dire, incontournable, c'était aussi le représentant de la diplomatie française. Mais c'est vrai que c'est quand même un voyage qu'il effectue, lui, d'abord lui. Hein, donc c'est sa personne qui est honorée et qui est mise en avant.
Le président de Gaulle arrive sur le tapis de velours rouge au centre de l'allée.
Vous êtes en ce moment dans la foule avec nous. Est-ce que vous avez déjà assisté à un pareil spectacle?
Ah non, jamais, jamais. C'est tout à fait extraordinaire.
Après les cris et les vivas en l'honneur du macho, du grand homme, ce sera la diablade.
De Gaulle vient d'arriver. Il se voit difficilement lui aussi un passage parce que la foule trouve son passage et essaie de suivre le général de Gaulle.
De Gaulle, c'est quand même peut-être le Français le plus connu à ce moment-là. Il a une popularité qui le précède. C'est le chef de la France libre. Il est enfin reconnu en 64. Hein. J'insiste sur cette date-là parce qu'elle est importante. Après la guerre d'Algérie, il est enfin reconnu comme celui qui a réussi la décolonisation, qui a été le libertador de la France face aux nazis aussi pendant la Seconde Guerre mondiale.
Monsieur Ravanel rappelle en ce moment le jour historique où, en 1944, toute la population se déversa sur cette même place pour fêter la libération de Paris.
Le général de Gaulle ne va pas en Amérique latine, en terre inconnue. En réalité, il y a dans les pays d'Amérique latine une espèce de sensibilité particulière à ce qui est la France, à la France de la Révolution, à la France des libertés, et à la France qui a joué un rôle au moment de la Seconde Guerre mondiale. En ceci que la chute de Paris, lorsque les Allemands sont rentrés dans Paris, a été considérée comme une catastrophe du point de vue des Sud-Américains. Et il faut le dire, il faut le savoir, ce sont des dizaines, des centaines de Sud-Américains qui se sont précipités pour constituer des comités de la France libre lorsque le général de Gaulle, dès 1940, a lancé un appel à l'Amérique latine. Un appel pour que soit des Sud-Américains descendants de Français, parce qu'il y en a eu tout de même pas mal, soit des Sud-Américains parce qu'ils étaient passionnés par la culture française, la philosophie française, etc., se sont rassemblés, se sont regroupés, soit pour trouver des fonds et les envoyer à la France libre, c'est ce qu'on appelle les comités de la France libre, il y en a eu en particulier un à Cuba, particulièrement actif, soit pour constituer des hommes, des effectifs. Et il faut le savoir, parmi ces hommes, il y en a qui ont été parmi les premiers à rentrer dans Paris en août 1944. C'est tout de même tout à fait essentiel de bien voir cela. Il y a une filiation entre cette période de la France libre et la période où le général de Gaulle rend visite à l'Amérique latine.
Paris, por favor. Paris. Paris, Paris. Paris, faites-nous la grâce de nous répondre.
Oui, j'ai besoin de moi, hein, voyez, hein, c'est ça.
D'accord.
Parfait. Ok, Paris, est-ce que
la couverture médiatique est impressionnante du côté français. Il y a toute la presse nationale quasiment, quotidienne et hebdomadaire qui est présente, avec des envoyés spéciaux. Et à la suite de la caravelle présidentielle, il y a un DC-6 qui est spécialement aussi affrété et qui transporte en effet plus d'une quarantaine d'envoyés spéciaux. Il y a des représentants parfois aussi de la presse quotidienne régionale même. Donc c'est un voyage qui est abondamment aussi médiatisé, sans oublier évidemment les médias étrangers aussi qui suivent l'affaire, bien sûr les médias américains, nord-américains, mais aussi d'autres médias européens, italiens, espagnols beaucoup, hein, puisque évidemment on est dans des pays hispanophones. Donc toute la presse suit cette tournée, ce périple, et va abondamment en rendre compte.
Tous les journalistes de la presse parisienne se précipitent, il y a du travail pour tout le monde. On enregistre avec des magnétophones, on filme avec des caméras, on photographie.
Le voyage, il est préparé évidemment du côté français, mais il est aussi préparé du côté des latino-américains, où on soigne évidemment la réception. Il y a des grandes affiches qui sont placardées, de grandes figures de Gaulle. Il y a le drapeau bleu blanc rouge qui est distribué à toute la foule pour accueillir de Gaulle. Il y a des pluies de confettis, tout ça, ça ne s'improvise pas évidemment. Donc c'est le côté, j'allais dire, un peu folklorique aussi du voyage, hein. Et ça fait partie bien sûr de la préparation.
Bon, ça part, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Au large de la côte Caraïbe, les chasseurs à réaction de l'aviation vénézuélienne ont escorté la caravelle présidentielle.
Le voyage présidentiel en Amérique du Sud, présenté par Jean Lanzi.
Au président Leoni,
ORTF,
à ses interlocuteurs vénézuéliens,
1964.
Le général de Gaulle disait « Nous sommes d'accord, vous et nous, pour que toute oppression et toute hégémonie soient bannies de notre univers. » Contraste avec l'apparence du quartier résidentiel et du quartier des affaires, Madame de Gaulle devait visiter dans la banlieue pauvre de Caracas une institution hospitalière fondée par une religieuse française de l'ordre de Saint-Vincent de Paul. Contraste avec la chaleur moite de Caracas, c'est ensuite Bogota. En la personne du président de la République, la Colombie, dira le président du Congrès, la Colombie accueille la France, qui est un peu une princesse de conte de fées, prédestinée à une mission glorieuse et exceptionnelle.
Alors il y a une très grande diversité entre ces pays qu'on peut souligner. Évidemment, il y a le Brésil qui est lusophone, les autres nations qui sont hispanophones. Il y a des nations qui sont marquées par une plus grande indigénité que les autres. Donc il y a des pays qui sont des vraies démocraties qui fonctionnent bien, si j'ose dire, comme l'Uruguay par exemple, ou le Chili à cette époque-là. On est dans les années 60. Et puis il y a d'autres pays où on a des régimes beaucoup plus autoritaires, des dictatures, c'est le cas surtout alors au Paraguay avec la dictature du général Stroessner, et également aussi au Brésil et en Équateur où des généraux se sont emparés du pouvoir, remettant en cause les libertés fondamentales.
L'Équateur ensuite, c'est une junte militaire qui gouverne le pays, un peu plus grand que la moitié de la France. Les Andes servent de toile de fond au décor de la place de l'Indépendance, où le général de Gaulle va, pour la première fois, parler en espagnol.
Francia trata de ayudar a los demás a avanzar por el camino de la civilización.
C'est des pays où, très souvent, ce sont des militaires au pouvoir.
Maurice Weiss.
Au point que, quand on regarde les images, on voit le général de Gaulle qui arrive en uniforme militaire, général deux étoiles, général de brigade, sans aucune décoration, comme il le voulait, et qui est accueilli par des officiers généraux, amiraux de tel ou tel pays qui ont la poitrine bardée de décorations les plus rutilantes qui soient. Par conséquent...
Il assiste aussi à beaucoup de défilés. Hein.
Il assiste à énormément de défilés, et au fond, de ce point de vue-là, il n'est pas très regardant. Mais attention, ne faisons pas d'erreur au point de vue chronologique, anachronisme. la période n'est pas une période où on met comme critère essentiel les droits de l'homme. Et l'essentiel pour le général de Gaulle qui visite tous ces pays-là, c'est de manifester la présence de la France, éventuellement d'essayer d'y instaurer une certaine coopération entre la France et ces pays-là, et d'avoir par la suite des investissements économiques.
Viva el Ecuador !
Il a fallu évidemment faire quelques concessions, et puis surtout, il se trouve que par exemple au Paraguay, le général Stroessner a ouvertement profité de l'avenue de Gaulle pour s'afficher à côté de lui et évidemment faire de sa propre propagande et montrer que il était capable, lui, le général Stroessner, d'accueillir sur son territoire le chef d'une grande nation européenne et le représentant de la France libre. Donc évidemment, tout ça oblige à certaines concessions. De même, il y a une anecdote qui me vient à l'esprit à propos de l'Équateur. Les quatre généraux contre-amiraux militaires, enfin, qui s'étaient emparés du pouvoir en Équateur, voulaient être décorés de la Légion d'honneur par De Gaulle. Or, le principe voulait que, normalement, seul le chef de l'État, c'est-à-dire l'un d'entre eux, le soit. Et finalement, il a fallu donc faire des concessions, et le général De Gaulle a bien voulu remettre la décoration à l'ensemble des quatre représentants de cette dictature. Donc, ça peut paraître anecdotique, mais évidemment, d'un point de vue politique, la crainte qu'on pouvait avoir, c'était que le voyage apparaisse comme une sorte de reconnaissance de régimes dictatoriaux. Et d'ailleurs, par exemple, le journal L'Humanité et d'autres organes de presse plutôt communistes ne se sont pas privés de montrer que finalement, De Gaulle allait rendre visite à des dictateurs, finalement. Donc, ça peut être l'objet de critiques, tout cela, en effet. Le but de Gaulle n'était pas non plus de faire de l'ingérence et de démocratiser tout le continent latino-américain.
Mais il parle de liberté des peuples quand même.
Oui, c'est vrai. Il parle de liberté des peuples, de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et évidemment, il est le porteur de la voix de la France démocratique. Mais c'est vrai qu'il faut se replacer là pour le coup dans le contexte des années 60. Même si on est dans la période de détente, on est quand même encore dans la guerre froide. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit avec le recul maintenant qu'on a sur l'histoire, que dans les années 60-70, beaucoup de pays latino-américains vont basculer dans la dictature. Évidemment, le Chili en 73, l'Argentine en 76, le Brésil qui va être une des plus longues aussi dictatures d'Amérique latine de 64 jusqu'en 85 à peu près. Donc la Colombie qui va être frappée aussi par la guérilla des FARC dans les années 60. Donc évidemment, tout cela va provoquer des tensions. Mais encore une fois, le but du général de Gaulle n'était pas forcément vouloir démocratiser les régimes politiques.
Cet effort délibérément organisé en commun entre nos deux républiques.
Journal télévisé, Chili,
l'une d'Europe,
3 octobre 1964.
Et l'autre d'Amérique latine serait un exemple entraînant et un changement important dans l'actuelle conjoncture internationale.
La suite de la visite du chef de l'État au Chili a été marquée par plusieurs entretiens politiques, en particulier avec le futur président du Chili, M. Frei, élu récemment, et qui entrera en fonction le mois prochain à la présidence de la République chilienne.
Parmi les facteurs qui expliquent
Maurice Weiss.
Le voyage du général de Gaulle en Amérique latine, il y a, comme je le disais, les lendemains de la décolonisation. Il y a aussi, sans aucun doute, une nouvelle phase de la guerre froide. Parce que c'est en 1962 qu'a lieu la crise de Cuba. Une crise très grave, une crise qui a des implications nucléaires entre les États-Unis et l'Union soviétique, celle-ci ayant décidé d'installer des fusées SAM équipées de têtes nucléaires sur l'île de Cuba, qui se trouve à portée de la Floride. D'où est ressortie une espèce de véritable détente entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et la leçon qu'en tire le général de Gaulle, c'est qu'en réalité, les États-Unis et l'Union soviétique jouent là un rôle d'adversaire partenaire.
C'est la détente, après évidemment la crise de Cuba, c'est la détente, mais il faut bien voir une chose, c'est que cette détente, elle est surtout entre les États-Unis et l'URSS, mais en Amérique latine particulièrement, on a des foyers révolutionnaires de type communiste ou pro-castriste qui commencent à s'implanter. On a une volonté de la part des États-Unis de ne surtout pas, évidemment, exporter d'autres Cuba en Amérique latine. Donc, il y a quand même des tensions assez fortes, malgré ce climat de détente. Et puis, l'Amérique latine hésite, justement, à cette époque, entre deux voies. L'une qui serait la voie américaine de l'Alliance pour le progrès, qu'avait proposé Kennedy quand il était encore en vie, puisqu'il il a été assassiné en novembre 63, mais il avait lancé cette idée d'alliance pour le progrès, d'une part. Et puis d'autre part, il y a l'autre voie, c'est la voie cubaine ou castriste.
L'alliance pour le progrès, en fait, l'idée originelle vient d'un ancien président brésilien, Kubitschek.
Isabelle Vanhoux.
Qui, dès 1958, a dit, mais si vous voulez véritablement nous aider, il faut que vous fassiez comme vous avez fait avec l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire une espèce de plan Marshall. Donc, ça a été repris très vite par l'administration Kennedy en 61, c'est-à-dire que ça vient au moment de la révolution cubaine, au moment où les relations se détériorent très fortement avec Castro, juste avant la crise des missiles qui, elle, intervient en 62. Donc, partant de là, Cuba, c'est très très près de plusieurs pays d'Amérique latine, donc il y a une peur de la contagion, à savoir que petit à petit, par effet domino, tous les pays d'Amérique latine ou une grande partie des pays d'Amérique latine sombrent dans le communisme. Donc, à cette crainte, il y avait deux réponses. Mais d'une part, l'aide au régime anticommuniste, donc les dictatures militaires. Ça ne veut pas dire que les Américains aient été ravis d'avoir des dictatures militaires en Amérique latine, mais ils préféraient certainement cela à l'arrivée de régimes de type castriste. Et d'autre part, l'un des grands principes de la politique étrangère américaine a toujours été, et c'est encore le cas aujourd'hui, que la pauvreté engendre le radicalisme, le communisme étant vu comme une forme de radicalisme. Donc, si on veut couper l'herbe sous le pied de l'expansion communiste en Amérique latine, il fallait résoudre ce problème de pauvreté qui était colossal à l'époque en Amérique latine, et d'inégalité, et donc essayer d'apporter une aide économique au développement, aussi, de façon à ce que les peuples souffrent un peu moins, soient moins pauvres et soient moins tentés de céder aux sirènes des militants communistes. Voilà donc, si vous voulez, la théorie qui a engendré la mise en place de l'Alliance pour le progrès, qui a été un énorme fiasco. Mais bon, ça, c'est une autre histoire.
Deuxième partie du voyage. Les pays du versant atlantique du continent, pays plus avancés dans leur développement technique. Et en premier lieu, l'Argentine avec Buenos Aires, 5 millions d'habitants, capitale d'un pays essentiellement agricole, mais capitale à tous les sens du terme.
ORTF, Jean Lanzy.
À Buenos Aires, nous nous trouvons au contact direct d'un problème de politique intérieure. Les partisans de Juan Perón, renversés par l'armée en 1955, réclament le retour de leur chef qui réside aujourd'hui en Espagne. Sous le signe de la troisième position, troisième force.
De Gaulle arrive en 64 et propose une voie alternative qui serait ni l'inféodation aux États-Unis ou du moins le rapprochement très fort avec les États-Unis, ni le modèle castriste ou communiste, mais qui serait une sorte de troisième voie, en effet. Alors, il ne prononce jamais ce terme-là dans ses discours. Il prend garde de prendre de grandes précautions oratoires. Mais, en effet, il cherche à rejeter la double hégémonie américano-soviétique. Ça, c'est par contre une constante dans ses discours. Ça revient très souvent. Et il propose, justement, une sorte de politique plus indépendante. C'est pour ça qu'il dit, voilà, la France arrive et propose de développer la coopération avec vous. Et alors ce thème de la troisième voie va être aussi beaucoup repris en Argentine, notamment à travers le thème de la tercera posición, qui était aussi la politique du général Perón et des péronistes qui cherchaient justement une sorte d'alternative entre le capitalisme et le communisme.
Le spectacle sur cette place de France
est absolument extraordinaire.
Reportage radio en Argentine, 3 octobre 1964.
Une foule très importante. Je pense que le chiffre global doit tourner entre 10 et 20 000 personnes. Et alors, c'est extrêmement curieux, cette population est partagée en deux. À la droite de l'estrade, tout ce qui est d'obédience syndicale, d'obédience péroniste éventuellement, et à la gauche, tout ce qui est d'obédience, disons, gouvernementale, c'est-à-dire toutes les personnes qui appartiennent au mouvement politique qui a porté au pouvoir le président Illia, qui s'appelle l'Union Civica Radical del Pueblo, l'Union Civique Radicale du Peuple. C'est beaucoup plus folklorique sur la droite. Il y a des banderoles de toutes les couleurs, il y a des portraits du général Perón, il y a des banderoles et des drapeaux des différentes villes, des différentes provinces, d'où sont venus aujourd'hui ces manifestants, si j'ose dire, ces gens qui viennent assister à l'arrivée du président de Gaulle sur la place. Du côté des péronistes, donc plus de folklore.
Les péronistes qui poussaient au retour de Perron, qui était à l'époque exilé, effectivement voient une sorte de similitude entre Perron et De Gaulle, deux leaders totalement charismatiques. Et effectivement, la troisième voie les séduit totalement.
Bon, est-ce que les Américains sont inquiets, du coup, Isabelle Gagnon?
Oui et non, parce que l'attitude des Américains est d'observer. D'espérer que De Gaulle n'obtiendra pas un succès phénoménal. Mais De Gaulle promet des aides, promet. Alors c'est vrai qu'une des conséquences du voyage en Argentine, ça a été la construction du lycée franco-argentin, ce qui est très important sur le plan culturel. Et puis il y a eu aussi quelques aides économiques et quelques partenariats. Mais enfin, ça reste très très modeste. Donc l'inquiétude, si vous voulez, elle va se calmer très 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 vite. Donc si vous voulez, ça bouge beaucoup en Amérique latine. Il y a beaucoup de violence. Il y a beaucoup d'anti-américanisme et donc il y a le voyage de De Gaulle accroît un tout petit peu cette inquiétude parce que, comme les Américains le disent, il ne faudrait pas qu'il attise les braises, en fait, par son discours sur la troisième voie, qu'il attise les braises nationalistes, qu'il attise les braises, sinon communistes, tout au moins...
Anti-américaines.
Voilà, anti-américaines, parce que les faits pour nous et pour le monde occidental risquent d'être graves. Ils ont l'impression qu'ils ne mesurent pas la conséquence de ces paroles et de ces propositions. Et puis après, bon, tout cela va se calmer, parce que dans les faits, il ne va pas se passer grand-chose, en fait.
André Passeron, vous venez d'arriver avec moi dans le DC-6 qui suit le général de Gaulle à travers tout ce voyage en Amérique du Sud. Nous avons donc, depuis Caracas, assisté à toutes les arrivées du général de Gaulle. Que pensez-vous de cette arrivée à Buenos Aires?
Il est évident que cette arrivée à Buenos Aires diffère totalement de toutes les autres. Ici, le général de Gaulle, malgré lui, sert de prétexte à une manifestation politique. Les péronistes, en effet, utilisent cette manifestation. On entend d'ailleurs actuellement l'énorme chahut qui se déroule sur la place de France. Je crois que vraiment le général de Gaulle, malgré lui, devient le symbole de l'opposition au gouvernement Illia de la part des péronistes.
Les militaires sont face à la foule, matraque à la main, prêts à intervenir. Ils n'interviennent pas encore. Le chant que vous entendez en ce moment s'appelle Los Muchachos Peronistas. C'est le chant officiel du parti péroniste, du parti socialiste. Je vous laisse entendre quelques secondes.
Sur l'étape argentine, il y a des tensions d'abord à Buenos Aires sur la place Francia où des péronistes manifestent leur présence assez bruyamment et chahutent le service d'ordre sur place. En plus, le portrait du général de Gaulle à côté du général Illia est modifié, c'est-à-dire qu'à la place du président Illia, on met une photo ou un dessin de Perón, le couvrant, donc ce qui permet de mettre Perón à côté de Gaulle.
La police reste matraque levée, les manifestants restent drapeau et banderole levée. Le général de Gaulle prend la parole pour essayer de ramener le calme. Et c'est l'ovation. Le président de Gaulle parle en espagnol et nous espérons, à travers ce chahut, arriver à donner la traduction de ses paroles.
La France.
Porque. A pesar del
pasado y de las distancias que las separan, nuestros dos naciones.
Et puis alors, surtout à Cordoba. À Cordoba, là, les choses dégénèrent, puisque lors du passage du général de Gaulle, du convoi, les péronistes chahutent le convoi. Là, une des vitres, d'ailleurs, de la voiture du général de Gaulle vole en éclats. Le président Hilliard argentin est blessé à la main. Enfin, il y a eu quand même pas mal de débordements et de chahuts à ce moment-là.
Les habitants de Buenos Aires disent eux-mêmes qu'ils n'ont jamais vu une telle ambiance dans leur ville.
Merci Jean-Claude Héberlé. Et maintenant, nous rendons l'antenne au programme qui aurait dû normalement se dérouler en ce moment, c'est-à-dire à votre disposition par Colette Guy.
Eh bien, au micro, Colette Guy, toujours fidèle au poste, si je puis dire. Et les Beatles nous attendent maintenant.
On lui a beaucoup reproché, par exemple, au président Hilliard, de ne pas avoir été capable d'assurer la sécurité, justement, du général de Gaulle et d'avoir évité les débordements. Et beaucoup d'articles de la presse argentine ont souligné, surtout évidemment de la presse péroniste, mais pas seulement, ont souligné le fait que Hilliard était un président faible, justement, qui représentait un exécutif faible, incapable de contenir tous ces manifestants. Donc ça n'a pas forcément été à l'avantage du pouvoir en place.
Les derniers Français venus s'installer en Argentine sont des pieds noirs de la région de Mostaganem, avec lesquels le général de Gaulle s'entretient pendant la réception.
C'est bien comme terre.
C'est excellent comme terre, mon général, et il y a beaucoup de place pour de nombreux rapatriés encore.
Et alors, votre matériel, comment faites-vous? Vous l'avez apporté
Nous avons reçu l'aide de l'État, mon général.
Vous avez un crédit pour en acheter?
Nous avons eu un autre crédit pour en acheter, mon général.
Ben, je suis content de vous avoir vu.
Merci bien, mon général. Au revoir.
Il faut savoir bien sûr que dans chaque étape de son périple, de Gaulle évidemment prend soin de rencontrer la communauté française sur place. Ça se passe généralement à l'ambassade ou au lycée français ou dans un institut culturel français. Et puis alors à Buenos Aires, en effet, il croise des anciens pieds noirs, il croise des anciens même de l'OAS ponctuellement. Mais la plupart d'entre eux, en effet, comme vous le disiez, sont devenus des propriétaires agricoles, pas forcément très fortunés, rencontrent beaucoup de problèmes sur place pour développer leur propriété et donc reçoivent des soutiens en effet de la part de l'État français, mais leur condition de vie n'est pas forcément très, très évidente en effet.
De l'Argentine typique, le président ramènera deux calebasses d'argent ciselées offertes par M. Illia, un splendide poney moucheté de noir et le souvenir d'une fête champêtre qui lui fut offerte dans une estancia à la limite de la pampa argentine, avec le concours d'authentiques gauchos.
Alors il ne faut pas oublier en effet qu'on est en 64, on est aussi quelque temps après plusieurs tentatives d'attentats contre le général de Gaulle. Et l'OAS est loin d'être complètement éteinte, puisque en août 64, de Gaulle avait été victime d'une tentative d'attentat au Mont-Faron, près de Toulon. Donc l'OAS est encore active à ce moment-là. Et puis elle est d'autant plus active, peut-être un peu paradoxal, en Amérique latine, surtout en Argentine, dans la mesure où de nombreux, en effet, anciens de l'OAS ont trouvé refuge. Ça a été démontré récemment par plusieurs historiens, dont un historien argentin qui s'appelle Mario Ranaletti. Vous avez en effet une communauté assez importante. Alors, ils sont surveillés sur place par les services de sécurité argentin. La plupart d'ailleurs mènent des activités non politiques. Ils sont fermiers, propriétaires dans les provinces de l'Entre Ríos. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, d'anciens partisans de l'Algérie française, sans forcément être membres de l'OAS ou des activistes, qui ont trouvé refuge en Amérique latine. Et donc il y a cette crainte que, à l'occasion de la venue de Gaulle en Argentine, les anciens activistes de l'OAS ne se manifeste à nouveau, ne se reforme et tente de faire quelque chose contre de Gaulle. Alors, de Gaulle était accompagné pendant tout son périple de quatre gorilles, de quatre gardes du corps, mais c'est vrai qu'en Argentine, on craignait beaucoup cette affaire des anciens de l'OAS présents sur place.
Au Paraguay, c'est une foule énorme, compte tenu de la population de la capitale Asunción, 300 000 habitants, qui avait salué le président de la République française à son arrivée.
Et le Paraguay ! Et le Paraguay ! Y Francia son ! Desde siempre ! Y para siempre ! Dos naciones amigas ! Viva el Paraguay !
Montevideo, jeudi après-midi. Il pleut. Le vent souffle en rafale et les foules désertant le macadam humide se sont abritées sous les porches et les auvents. Dans la décapotable où il est monté à l'entrée de la ville, le général salue et remercie. Son képi, sa vareuse sont trempés. Il ruisselle, il est ravi.
Lancia do cruzador Colbert, o general Charles de Gaulle, presidente da França, desembarca no cais da Bandeira no Rio de Janeiro.
14h hier, le croiseur Colbert, venant de Montevideo, faisait son entrée dans la baie de Rio. Un magnifique soleil éclairait le pain de sucre et le Christ rédempteur qui surplombe le mont Corvocado.
Un officiel du centre d'instruction, Almirante Vandenkolff, de Gaulle passe en revue les batailles.
La cité merveilleuse de Rio de Janeiro a montré ce matin qu'elle sait offrir aux autres qu'elle aime un accueil digne d'eux.
Les relations entre la France et les États d'Amérique latine n'avaient pas toujours été empreintes de stabilité et de sérénité. Par exemple, quand on regarde la carte du voyage du général de Gaulle en Amérique latine, on voit qu'il se rend au Brésil, mais ça a été in extremis. Pour une raison toute simple, c'est parce que avant le voyage, il y avait eu une espèce de ces conflits, guerre picrocolline entre la France et le Brésil, parce que les chalutiers français allaient pêcher dans les eaux près des eaux territoriales, pas dans les eaux territoriales brésiliennes, des langoustes, et on a appelé cela la guerre de la langouste. Il y avait une tension très forte entre les Français et les Brésiliens, et c'est vraiment in extremis que tout cela a été résolu. Évidemment, ça aurait fait mauvais effet que le seul pays d'Amérique latine, le seul pays important, le plus grand de très loin de tous, il n'y aille pas. Mais encore une fois, là, c'était en effet une dictature et des dictatures qui se sont perpétuées pendant une bonne partie des années 70 et 80.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
Reportage radio. Brésil, 12 octobre 1964.
L'état de siège dans lequel vit le Brésil depuis la chute de Jean Goulart a pris fin samedi soir. Mais il sera prorogé par un décret signé Castelo Branco dès vendredi, autrement dit dès que le président de Gaulle sera dans l'avion du retour à Paris. C'est peut-être la seconde fois depuis le début de ce voyage en Amérique du Sud que les Français arrivent dans un pays agité ou menacé par une crise politique. Ici, bien sûr, rien de comparable au péronisme rencontré en Argentine. Mais l'existence de différents clans qui inquiètent le pouvoir et entendent profiter de la visite française pour faire parler d'eux crée un certain nombre de difficultés. Le problème est en effet de savoir si l'arrivée du général de Gaulle provoquera une sorte d'entracte ou d'intermède apaisant, si vous voulez, dans les affaires brésiliennes, ou si au contraire, elle favorisera indirectement l'agitation des uns ou des autres, sans que les Français aient fait, bien entendu, vous en doutez bien, le moindre geste pour envenimer les choses. Alors là, je laisse un petit blanc, éventuelle question. Dirigeants français ou brésiliens évoqueront le fameux problème de la pêche à la langouste, les échanges scientifiques et techniques et la coopération nucléaire entre Paris et Rio. L'heure du bilan du voyage est proche, sans être encore véritablement arrivée. Il reste les accueils et les réactions de Rio de Janeiro, Brasilia, São Paulo, ce Chicago de l'Amérique du Sud. Jean-Pierre Elkabbach, Joseph Paltou, Jean-Claude Héberlé, à Rio, à vous Paris.
Alors concernant Isabelle Vanou, justement ces pays en dictature et le soutien qu'offrent les États-Unis à ces pays qui permettent comme ça d'endiguer le communisme. Par exemple, la question du Brésil, il y a un coup d'État en fait qui a destitué le président Goulart et qui a mis en place donc un certain général Castelo Branco
en amont.
ce que les Américains ont fait,
Isabelle Vagnon,
c'est que, comme là aussi, ils craignaient une dérive de Goulard vers le marxisme, c'est qu'ils ont encouragé, comme ils l'ont fait d'ailleurs en Europe de l'Est, c'est qu'ils ont encouragé de manière secrète les mouvements qui étaient hostiles au président Goulard, au régime en place. Alors, les encourager comment ? Eh bien, en les subventionnant. La subvention à la démocratie, ça existe encore de nos jours, donc on peut les accueillir. Organiser des réunions en secret à l'ambassade, par exemple, s'ils ne savent pas où se réunir. Donc voilà, si vous voulez, on voit très bien, pendant les années 63 et début 64, que de l'argent a été versé à des groupes, que ce soit des groupes syndicalistes, que ce soit des groupes politiques de divers bords, d'ailleurs, pour les aider, en quelque sorte. Après, il y a aussi ce qu'on laisse entendre, c'est-à-dire que si un tel arrivait au pouvoir, s'il devait se passer telle ou telle chose, les États-Unis soutiendraient le nouveau régime. Et par soutien, bien entendu, on entend soutien militaire, soutien économique, soutien financier. C'est un soutien extrêmement indirect, en amont, et aussi au moment du coup d'État, dans lequel, j'insiste, les Américains ne sont nullement intervenus. Mais enfin, quand même, il y avait la marine américaine qui croisait pas très loin, au cas où. Ils n'ont pas eu à intervenir. Tout s'est bien passé.
La police brésilienne vient d'attaquer sauvagement les journalistes français. À coups de matraque, à coups de poing, les policiers brésiliens maintenant jettent les journalistes à terre. Des bagarres très violentes éclatent. À coups de poing dans la nuque, à coups de pied. Un coup de matraque. Arrêtez, ne partez pas! Ce sont des véritables scènes de lynchage maintenant. Il y a un de nos confrères du Figaro que l'on transporte. La scène à laquelle nous venons d'assister est absolument incroyable. De brutalité et même de sauvagerie.
Il ne faudrait pas croire non plus que toutes les dictatures d'extrême droite latino-américaines étaient inféodées à 100% aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils prenaient ce qui les arrangeait, mais ensuite, ils ont su, aussi bien le Brésil que l'Argentine, prendre des décisions, notamment en termes économiques ou en termes militaires, développement du nucléaire, par exemple, pour le Brésil, et après pour l'Argentine, qui n'ont pas particulièrement fait plaisir aux Américains. Donc là aussi, c'est un mythe qu'il faut laisser tomber. C'était aussi l'intérêt des dictatures militaires sud-américaines de contrer le communisme. Donc là, il y avait une alliance d'intérêts, tout simplement. À partir du moment où les intérêts divergeaient, il n'est pas du tout certain qu'ils acquiesçaient à toutes les demandes américaines. Ça n'est pas le cas.
L'antenne tout de suite.
Vous êtes en ligne, vous êtes sur l'antenne, Jean-Pierre Elkabbach. Nous vous écoutons.
Le général de Gaulle parle à l'instant. Il répond au maréchal Castelnau.
Nous arrivons au Brésil à votre aimable invitation.
Discours du général de Gaulle à Rio.
Il me semble.
13 octobre 1964.
À la fois une consécration et un commencement. Une consécration, car si la France est aujourd'hui présente ici, en la personne de son chef de l'État, c'est parce que la destinée de l'Amérique latine, et spécialement du Brésil, à qui mon pays est attaché depuis si longtemps par tant de liens d'amitié, cette destinée est reconnue par la France aujourd'hui comme un des éléments principaux de l'avenir du monde entier.
Nous allons abandonner ce cours de littérature française, car je crois que la radio-télévision française va vous poser une question. Pour quelle raison étudiez-vous français?
Je pense que malgré l'extrême influence de la langue anglaise dans le monde entier, la langue française continue toujours à être la langue de la diplomatie mondiale.
J'adore le charme et le pittoresque français.
et je vais même faire un cours de littérature contemporaine à Paris.
Vive le Brésil !
À la suite, justement, du voyage général de Gaulle en Amérique latine, la coopération culturelle va connaître un développement assez spectaculaire. Et on voit notamment dans certains pays, je pense à l'Argentine, au Brésil, le nombre d'instituts et d'alliances françaises, par exemple, qui va se développer considérablement et qui va accueillir un nombre croissant d'élèves. Donc ça, c'est pas négligeable, parce que ça fait partie donc de ce qu'on pourrait appeler le soft power à la française, pour prendre un terme devenu aujourd'hui à la mode. Alors, pour ce qui est de la coopération purement économique, c'est sûr qu'on a alors des pays qui évidemment sont en plein développement. Bon, à ce moment-là, on parle par exemple du miracle brésilien qui va connaître une croissance économique assez importante. Et donc la France veut aussi profiter de ces marchés. Simplement, concrètement, évidemment, après le départ de Gaulle, il y a très peu finalement de contrats. Il y en a quelques-uns dans le domaine nucléaire, mais d'un point de vue purement économique, le voyage n'a pas eu cet effet escompté qui est de immédiatement après ouvrir des marchés et entraîner un développement de la coopération et économique.
Michel Pierre Texier, vous m'entendez?
Ici Orly, je vous entends et je vois que les nouvelles vont vite puisque l'avion, en effet, s'est posé il y a quelques minutes au bout de la piste.
France Inter.
Vous savez que ce soir, il fait très froid.
17 octobre 1964.
Et, les membres du gouvernement qui sont venus très nombreux ici, mais pas tous néanmoins, sont encore à l'intérieur du salon d'honneur. Ils vont quitter ce salon au dernier moment pour accueillir le chef de l'État qui revient donc de ce voyage d'un mois en Amérique latine. C'est un voyage, c'est un périple, vous me passerez peut-être l'expression, car un périple est un voyage circulaire qui se fait par voie maritime, mais c'est un mot que l'on a beaucoup employé tout au long de ces 30 jours passés sur le continent sud-américain.
Merci à Maurice Weiss, spécialiste d'histoire internationale, Mathieu Trouvé, spécialiste d'histoire diplomatique et internationale, Isabelle Vanhou, spécialiste d'histoire des États-Unis.
Vous avez peut-être un certain brouhaha ici, puisque nous sommes à proximité des cabines téléphoniques et nos confrères des agences.
Mixage, Benjamin Vignal.
Vers
1964, le périple latino-américain du Libertador français, un documentaire de Séverine Yatar et Véronique Samouilov.
Il ne paraît pas également très habitué au froid qui l'a probablement surpris, car tous ses ministres sont chaudement vêtus ce soir. Voici d'ailleurs des silhouettes familières que tous les journalistes connaissent bien, puisque ce sont les gorilles de la suite qui passent avec leurs valises et, semble-t-il, des cadeaux qu'ils ont dû rapporter d'Amérique du Sud. Mais revenons, si vous voulez, à la partie officielle. C'est arrivé.
Si vous voulez écouter ou réécouter ce documentaire avec ses formidables archives, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Et demain, nous continuons notre série sur les voyages politiques en traitant du grand voyage en France du jeune roi Charles. Mais là, en l'occurrence, le roi Charles IX, c'est entre 1564 et 1566.